chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
7h34 en ce jeudi matin, nous sommes avec Sébastien Saint-François ici en studio. Comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Oui. On parle hors d'onde, hein? Il y a de l'action.
Ah oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, je te félicite. Avant même que tu commences de parler d'avoir fait tes choix, parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait parler aujourd'hui.
On pourrait parler pendant des heures.
Effectivement. Tu sais, d'habitude, l'été, souvent, il y a une expression qui dit, c'est dans le monde des nouvelles, qui dit que c'est silly season parce qu'on se trouve à parler.
On parle des hamburgers qu'il faut cuire, des algues bleues.
Ils sont allés chercher les chats dans les arbres, tout ça.
Ouais.
Mais là, il se passe un paquet de trucs.
Ouais,
commençons avec le provincial.
Bien, le provincial, le provincial, oui. Bien, le provincial fédéral, je lis ça au fédéral. Bon, on sait que le nom de Pablo Rodriguez circule depuis quelques semaines maintenant, qui serait très intéressé à briguer la chefferie du PLQ, de passer du côté de Québec. Il n'y a toujours pas fait d'annonce officielle.
Non, c'est ça,
juste des rumeurs très fortes.
Oui.
Mais écoute, je trouve que c'est un petit peu... C'est prendre des citoyens pour des... Pas pour des imbéciles, mais je veux dire... Fais un choix. Le PLC, là, le Parti libéral du Canada, donc c'est le lieutenant québécois de Justin Trudeau. C'est un gars qui a une longue feuille de route. Il est actuel ministre des Transports. Il y a une partielle là, dans Ville-et-Mort le 16 septembre.
Oui.
On a une élection partielle on en parle depuis des jours et des jours et des jours. Rappelons-nous que Trudeau a perdu Saint-Paul à Toronto, qui est l'équivalent, excuse-moi, on disait, que s'il avait perdu Westmount ici au Québec.
Oui, c'est
château fort, libéral. Là, fait que, il a perdu ça cet été, c'était au mois de juin. Le 24 juin, la journée de notre fête nationale. Là, le 16 septembre, il y a une autre partielle. Rien n'est joué. On ne sait pas s'il perd un deuxième comté quand même assez sûr. C'est l'ancien comté de Paul Martin, grosso modo. Là, ça a été redécoupé depuis, mais grosso modo, c'est l'ancien comté de Paul Martin. Alors, on sait que le NPD mise beaucoup sur ce comté-là. Il y a un conseiller municipal, Craig Smith ou Stewart, je ne me souviens pas, qui est le candidat. Le Bloc a des prétentions. Donc, ça va jouer dur. Puis là, t'as Pablo qui dit que je suis très confortable. Il a dit ça là, à des journalistes cette semaine. Là. Très confortable à être en deux chaises. Parce qu'on sait qu'il y a une réunion du cabinet qui se déroule à Halifax.
Mm-hmm.
Je sais pas si c'est terminé ou ça se termine aujourd'hui peut-être. Donc lui, il dit non, moi je suis bien confortable. J'ai pas fait de choix. Oui, peut-être ça m'intéresse. Écoute, je trouve ça met Trudeau dans une position...
un peu étrange.
Ça démontre son manque de leadership. Bon, on le sait, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais on sait que ça va pas bien pour Trudeau depuis longtemps dans les sondages. Je pense qu'on le tolère, entre guillemets, au sein du parti, puis on dit, bon, on va aller à la bataille avec lui. On veut pas, entre guillemets, sacrifier un nouveau chef, tu sais, parce qu'on sait, c'est pas mal coulé dans le béton que les libéraux ne formeront pas le prochain gouvernement. Ça fait 3 mandats qui sont là, près de 10 ans. Le cycle d'alternance politique va faire en sorte que ce sera les conservateurs.
Il y a beaucoup d'insatisfaction, là, au niveau du gouvernement.
Oui, énormément. Puis c'est normal, de toute façon, on a voté pour Trudeau en 2015 pour quelle raison? Pour se débarrasser d'Harper.
Exactement.
On se débarrasse de quelqu'un. Hein? On vote pour se débarrasser de quelqu'un.
On vote toujours contre quelqu'un.
C'est ça. Puis en 2015, ça aurait pu être Thomas Mulcair du NPD, mais là, il y avait eu l'affaire le scandale pas de la burqa, mais en tout cas de quelque chose.
Je
pense que c'était de la burqa. Puis là, Mulcair s'était mis à descendre, puis là, Trudeau s'était mis à monter. Fait que là, tout le monde s'est rué sur Trudeau parce qu'on s'est dit, collectivement, bon, mais si on veut se débarrasser d'Harper, c'est Trudeau que ça nous prend.
Oui.
Rappelons-nous, là, Trudeau, il est parti en 2015 en troisième, de loin. Là.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que c'est le seul gouvernement majoritaire qu'il a formé, d'ailleurs. Mais bon, toujours est-il, pour revenir à notre monsieur Pablo Rodriguez, je pense que, en tout cas, la rumeur est très forte qu'il va se lancer, mais qu'il le fasse donc, là, tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'il va attendre au 16 septembre, voir qu'est-ce qui se passe, puis à l'annoncer par la suite, mais quand même. Je trouve que c'est un peu gênant pour son parti, puis c'est un peu gênant aussi pour tous les électeurs, tu sais, puis ses électeurs dans sa circonscription. C'est comme, là, tu fais quoi, Pablo? Là? Tu peux pas être entre deux chaises bien, bien longtemps puis rester confortable, tu sais.
Non, effectivement, il faudrait qu'il se déclare.
Il va falloir qu'il se déclare, puis le plus tôt sera le mieux, je pense. Puis bon, est-ce que c'est un bon candidat pour le PLQ ou pas? C'est sûr que c'est un nom connu. Fait que ça, tu sais, ça va générer de l'intérêt pour cette campagne-là, parce qu'on s'en parlait hors d'onde. Tu sais, on a M. Coderre, qui est un des candidats officiellement annoncés. C'était le premier, mais tu sais, écoute, M. Coderre, il parle comme un politicien d'une époque révolue.
Oui,
là,
oui, tout à fait.
Bon, c'est pas lui, mais je pense qu'il va aller chercher les jeunes. Là, il était à la convention des jeunes libéraux il y a quelques jours, puis ça a l'air que personne n'allait y parler. Là, tu sais, c'est un petit peu... en tout cas, je pense que c'est Nathalie Normando qui lui a suggéré de se désister, de quitter la course pour éviter une humiliation. On sait que Mme Normando des antennes a été déjà politicienne dans ce parti-là. Ça sera intéressant de voir s'il reste, s'il s'accroche vraiment jusqu'à la fin. Ou si M.
Coderre est comme un chat, hein? Il a quand même 9 vies.
Oui, mais là, tu sais, je l'écoute, chaque fois que je l'écoute prendre la parole, je dis, il nous parle des séparatistes, il nous parle de souper spaghetti, il nous parle de choses d'une autre époque.
Ça nous ramène 30 ans.
C'est son droit d'être candidat. Ça sera à voir... Oui. Qu'est-ce que ça donne?
Hein? OK. Et puis, du côté d'Ottawa, le gouvernement fédéral cède aux pressions américaines puis annonce la surtaxe là, de 100 % pour les véhicules électriques.
En tout cas, écoute, je trouve que tout ce débat de véhicules électriques, moi, je suis pas prêt à passer aux véhicules électriques pour un paquet de raisons. Je fais pas assez de kilométrage. Je trouve que ça coûte drôlement trop. Moi, quand je vois des prix, là, 80 quelques mille pour une Hyundai là, électrique, là, OK, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on veut... Le message qu'on envoie est contradictoire parce qu'on veut que les gens prennent le virage électrique, mais en même temps, on s'organise pour maintenir les prix des véhicules électriques tellement élevés que c'est hors de portée de bien des gens. Là, on va commencer à couper les subventions. Je suis entièrement d'accord parce que moi, personnellement, je suis tanné de subventionner des véhicules électriques qui ne payent pas de taxes sur l'essence, bien entendu. Donc, à un moment donné, il faut que ça arrête, là, ces subventions-là, parce que ces subventions-là aussi, je crois, font en sorte que les prix demeurent artificiellement élevés.
Tout à fait.
Tu sais, tu regardes la majorité des véhicules qu'on vend, électriques qu'on vend sur notre marché, là, c'est des prix astronomiques. Ça n'a pas d'allure. Les gens n'ont pas le moyen de payer ça. Là, on veut empêcher les véhicules chinois d'entrer au pays. Ben, c'est pratiquement ça. Tu sais, en surtaxant de 100 % on s'entend-tu que...
Ben, c'est
ça le but.
Oui, oui.
Mais ça lance un message très contradictoire parce qu'on veut que les gens prennent le virage électrique. On nous dit, je n'y crois pas, mais qu'à partir de 2035, on ne vend plus de véhicules neufs à essence. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Ils vont repousser cette date-là. On ne sera pas capable. En 2035, c'est demain. Mais tu sais, en même temps, on a des possibilités d'avoir des véhicules plus économiques. Et on fait ça. Puis en même temps, on apprend, j'apprenais dans la presse cette semaine, parce qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la filiale batterie au Québec, hein, la Nordvolt et compagnie.
Tout à fait, qui est une technologie qui, somme toute, est obsolète.
Ça va le devenir.
Ça va le devenir rapidement.
Ben oui, mais on mise beaucoup là-dessus. Puis en plus, on nous parle qu'il y aurait... il pourrait y avoir des pénuries de minéraux critiques en sol canadien. Alors, imagine...
Ben, c'est ça le problème aussi, c'est que ces minéraux-là sont en abondance et facilement accessibles en Chine. Alors, si on...
Ben, si on les écœure,
ils ne les vendront plus.
Ben, c'est ça. Fait que je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais ça regarde pas bien. Là. On veut interdire un produit dans notre marché sous plein de prétextes. En même temps, on a besoin de la Chine si on veut réussir à faire ce virage-là puis à installer cette filière-là. Alors, je sais pas où on s'en va avec ça, mais moi, ça m'inspire pas confiance pour la suite des choses.
Oui.
Alors, ça va être à suivre. C'est sûr que les Américains mettaient beaucoup de pression sur notre gouvernement depuis des mois pour qu'on fasse la même chose que
les autres. Parce qu'ils sont très, très protectionnistes.
Oui.
On voit encore dans le bois d'œuvre, c'est un dossier qui dure depuis des années puis c'est pas réglé.
Puis rappelons-nous là, que le protectionnisme, c'est des deux bords. Hein. Autant les républicains puis les démocrates sont encore plus protectionnistes, règle générale, que les républicains. Oui. Et donc, si Mme Harris remporte la présidence, faut pas penser que ça va être le libre-échange. Mme Harris, on nous rappelait qu'en 2020, je crois, au Sénat, elle avait le vote, elle a un vote au Sénat lorsqu'il y a égalité et elle a voté contre l'accord de libre-échange négocié sous la présidence Trump. Là, elle a voté contre ça, il faut s'en rappeler. Là.
Oui.
La CEUM,
oui.
Elle a voté contre. Donc, elle est très protectionniste de son côté aussi. Donc, en tout cas, c'est inquiétant de voir cette guerre commerciale-là qui commence là, avec des surtaxes de 100 %. Puis, tu sais, on peut s'entendre que le Canada est un petit joueur là, contre la Chine. Là.
Clairement. Puis, en même temps, les relations sino-canadiennes sont pas bonnes depuis
des années.
Elles
sont pas bonnes depuis des années.
Oui, oui.
C'est pas nouveau, mais ça,
Huawei,
ça c'est rien pour aider.
Oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Donc, c'est un dossier qu'il va falloir suivre de près.
Absolument.
Tu as mentionné Harris, Madame Harris, la nouvelle candidate démocrate pour la présidence américaine. Finalement, ça semble être décidé là, pour le 10 septembre sur ABC.
Ça n'a pas l'air d'être clair encore. Je lisais, il y a l'air d'avoir des frictions sur le format, sur le comment ça va se dérouler. Micro fermé, micro ne pas fermé. Écoute, on en parlait hors d'onde. Rappelons-nous le fameux débat contre Hillary Clinton en 2016, là, où Trump se promenait partout puis il rôdait derrière elle.
Oui, il était très intimidant.
C'était quelque chose. Bon, on se rappellera, le plus récent débat, ça a été plate à mourir, là, contre Joe Biden. Je veux dire, je l'ai écouté jusqu'à la fin, puis je m'endormais presque. Là. C'était d'une platitude. Un, parce que Biden était perdu, mais je veux dire, le format, c'était plate. C'était pas animé, c'était pas dynamique. Mais non, le problème, justement, c'est qu'on a un Trump qui est débridé, puis si on le laisse aller, ben il va faire toutes sortes de niaiseries, puis on comprendra rien de ce débat-là. Fait que c'est de trouver le bon dosage. J'ai hâte de voir, je sais. C'est sûr que ça va être très intéressant à voir la dynamique entre les deux. Puis rappelons-nous aussi que Harris, en 2020, elle a été candidate aux primaires démocrates, puis elle a quitté la course, notamment en raison de sa performance en débat. Elle n'était pas très bonne. Depuis,
malgré le fait que c'est une procureure, c'est quelqu'un qui est habitué de
absolument,
de parler.
Puis on l'a vu à la convention, c'était bien. Convention, c'était un gros party, puis bon. Mais ce qui est fascinant, c'est que depuis l'annonce du retrait de Biden, on n'a pas eu droit à une entrevue non scriptée de la candidate présidentielle.
De Madame Harris, oui.
On va avoir une entrevue sur CNN ce soir à 21h. Elle va être accompagnée de son coalitier Walz, le gouverneur du Minnesota. Pourquoi? Moi, je trouve que ça lance un drôle de message parce que ça démontre une certaine peut-être faiblesse. J'ai peur de me présenter seul, donc je veux qu'il m'accompagne. Ou est-ce que c'est plutôt je veux que les gens le connaissent,
gens
lui
le
aussi,
connaissent,
parce que les gens ne le connaissent pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On s'entend que la dynamique sur CNN est différente que si elle se présentait chez Fox. Est-ce qu'elle va se présenter chez Fox éventuellement chez Hannity pour une entrevue là, au 21h? Ça va être tout autre chose. Parce que, écoute, t'écoutes les deux postes. Moi, j'écoute les deux postes. C'est deux mondes, là. T'sais, t'écoutes Fox News, t'as une vision de l'Amérique qui t'est présenté. T'écoutes CNN, c'est une autre, toute autre vision, ça n'a rien à voir.
Là. C'est hyper polarisé. On ne peut même pas comparer, hein, parce qu'on pourrait dire l'un serait l'équivalent de la SRC, puis l'autre serait la... Mais non, on est
c'est des véhicules,
beaucoup plus loin.
C'est des véhicules politiques, ces médias-là. Puis le message, t'écoutes Fox, puis Harris, c'est la diablesse en personne, puis elle va détruire l'Amérique. T'écoutes CNN, puis c'est le contraire, c'est Trump qui est le diable, c'est lui qui va détruire l'Amérique, fait que c'est très polarisant. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner, parce que ça s'en vient vite, hein, le début
le 10
novembre.
Le
10 septembre, puis l'élection aussi, il n'y a pas 40 ans. Hein. Puis il ne faut pas penser que c'est dans le sac pour Mme Harris.
Non.
Loin de là, c'est très serré. Et Trump, il n'est pas sorti de la course encore. Puis Trump continue donc de faire la manchette judiciaire. J'ai vu que le procureur Jack Starr remodeler ses chefs d'accusation,
une refonte
de ses affaires, puis déposer son dossier donc pour les, entre autres les documents classifiés à Mar-a-Lago, puis bon les
son implication dans le 6 janvier.
Dans le 6 janvier, donc ça se poursuit. Donc mais on n'en parle pas, hein. On n'en parle plus. On parle de Trump, là, puis il est candidat, mais les gens ne parlent plus de ses déboires judiciaires.
Ça a quand même fait la manchette sur CNN hier, parce que moi j'en ai vu hier.
Dans le spin de tous les jours, on n'entend pas tant parler.
Mais faut... Le timing est quand même particulier. Parce que
absolument. Il faut s'en rappeler. Là, c'est un criminel condamné, Trump. Là. Oui, il s'en va en appel là, de sa condamnation, mais c'est un criminel condamné en attente de sa sentence. Là.
Tout à fait.
Il faut s'en rappeler.
Oui, oui. Puis, tu sais, c'est pas nouveau. C'est quelqu'un qui a eu des comportements répréhensibles. Toute sa vie. Qui a exploité les gens pour qui travaillaient pour lui.
Absolument.
Qui s'est servi de fonds de ses campagnes pour...
Absolument.
Payer Mme Stormy Daniels, entre autres.
Qui a mis des gens en faillite dans sa vie de businessman.
Il a jamais été condamné, sauf dans le cas de la dame qui l'a poursuivi pour agression sexuelle aussi.
L'autrice, oui.
Oui, c'est ça.
Je ne me souviens pas de son nom, là.
Mais elle a eu gain de cause, puis.
Ça, c'est civil. On ne peut même pas dire que c'était une agression sexuelle. Il y a un autre terme qu'ils utilisent, étant donné que c'est un procès civil et non criminel. Mais non, écoute, c'est pas un enfant de cœur, notre ami Trump.
Non.
Toute sa vie, là, il a monté, un, grâce à l'argent de son père, puis ensuite, à force de...
De manigances financières.
Manigancer, puis manigancer le monde, puis faire des passe-passe.
Surévaluer la valeur de ses propriétés pour aller chercher plus d'argent. Parce que sous-évaluer, c'est la valeur de ses propriétés pour payer moins d'impôts.
C'est
un... croque fini.
Ouais, ouais. C'est juste en anglais, les Américains, ils disent « a con man ».
Oui, tout à fait. Pas vendu le Brooklyn Bridge encore.
Non, pas encore.
C'est à peu près ça. Sébastien, merci énormément d'être passé nous voir.
Super.
C'est toujours divertissant. Donc, tu seras sans doute de retour la semaine prochaine une petite entrevue avec Charles.
Ben
donc,
oui.
C'est un rendez-vous à jeudi prochain. Puis on suit tout ça en fin de semaine.
Salut.
Salut.